Alors écoutez, oui, c'est assez intéressant parce que justement, ça fait un dialogue, à mon avis, assez fructueux, je pense, j'espère, en tout cas. Je précise que je ne reviendrai pas beaucoup sur les travaux que nous menons réellement au Media Lab, ni même sur ceux que j'ai menés sur les questions d'opinion mining et de sentiment analysis, mais j'essaierai plutôt de lancer une discussion sur les enjeux pour une mutation, ce que j'appellerais une nouvelle génération des sciences sociales. Et vous verrez effectivement qu'il y a matière à discussion, des points qui ont déjà été évoqués en partie par mes collègues. Alors je voudrais commencer juste par cette citation de Tim Berners-Lee, qui est quand même une autorité dans l'informatique absolument incontestable, Sir Tim Berners-Lee. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans une citation comme celle-là, où il indique que justement le web connecte des gens désormais, effectivement, il est en train de faire de la sociologie. Ce qu'il disait auparavant, c'est qu'en fin de compte, il y avait le 3I, les International Internet Infrastructure, pardon, excusez-moi, et puis ensuite une deuxième étape qui a été le 3W, qui est le World Wide Web. Ici, c'est une carte que nous avons faite sur le livre numérique et sur le web du livre numérique en France, vous voyez, avec 5600 sites. Et finalement, ce qui l'intéresse, c'est de dire maintenant, et en 2004, de dire effectivement qu'il y a le Global Giant Graph. Donc nous avons muté, nous sommes dans un autre univers où le réseau connecte des personnes. Et je dirais que d'une certaine façon, ça exprime assez bien le fantasme, d'une certaine façon, du big data, vu du côté des computer science, et aussi par le marketing, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'à travers ces données-là, on peut rendre compte finalement des activités de vrais humains, c'est pas Real Humans comme la série, mais c'est... et qui se passent finalement de sciences sociales. C'est un peu ça. Et c'est un peu étonnant du point de vue comment pour quelqu'un qui est aussi rigoureux que Berners-Lee, effectivement, puisqu'en réalité, le graph, qu'est-ce qu'il connecte? Il ne connecte que des comptes, à la rigueur, et d'autres choses éventuellement, hein. Et les sociologues, finalement, se retrouvent dans la position de devoir le rappeler et d'adopter un petit peu ce slogan de Ralph Hinton, l'anthropologue américain, qui disait qu'il faut prendre les phénomènes à leur valeur faciale, c'est-à-dire juste qu'est-ce que c'est, en surface, sans s'intéresser à une supposée interprétation ou à des relations a priori avec d'autres entités qui seraient, elles, fondamentalement plus sociales. Et en réalité, nous avons des cartes, nous avons des comptes, nous avons des sites, éventuellement, qui font des nœuds quand on les traite par des modèles de graphes, des arcs, et on fait des graphes, effectivement. Et c'est ce qu'effectivement avait fait Kleinberg, notamment en 1997, où il avait défini aussi des scores de hub et d'autorité, et qui avait produit ce petit schéma qui a été publié, c'est dans son article de Science, ça, un peu plus tard. Et l'intérêt, c'est qui est en même temps problématique, et qui rejoint ce que David Ponti a exposé cet après-midi, c'est effectivement c'est qu'il emprunte en réalité à la centométrie, y compris les termes d'autorité notamment. Et cette transposition-là laisse ouverte précisément des confusions, des erreurs d'interprétation de mon point de vue, et en réalité, on oublie que la scientométrie est un univers très balisé, un univers très conventionnel. Il ne fonctionne que parce qu'il y a des conventions de citation et qui sont extrêmement bien normalisées, etc., et dont on peut même produire le tout. C'est ce qu'Étienne évoquait tout à l'heure aussi dans certains cas. Donc, on a un tout de référence, on a des normes, etc., ce qui n'est absolument pas le cas du web, bien évidemment. Et donc, quand on importe ces concepts-là dans la topologie du web, ça ne peut que créer d'une certaine façon des confusions. Une citation, ce n'est pas un lien hypertexte en général. Alors, ce qui est intéressant, c'est que des gens comme Google, David l'avait rappelé aussi du côté de Nerin, mais c'est aussi, ça s'en inspire aussi Kleinberg, effectivement, Google va s'en servir pour son PageRank, mais sans prétention interprétative. Google n'a pas fait cette erreur-là. Ils sont beaucoup plus prudents, d'une certaine façon, que les chercheurs en sciences sociales, ou dans certains cas, on transforme immédiatement les clusters en communautés, les rankings en mesures d'autorité, etc. Tout ça va très vite. Et nous nous retrouvons là face, finalement, à un problème assez classique, sur lequel je restreins un peu mon propos, effectivement, ce problème de l'analogie du web et de la société qui existait en réalité bien avant ce big data généralisé que l'on évoque désormais. Et de ce point de vue, je pense qu'il est intéressant d'évoquer une deuxième piste de Kleinberg, que j'aime beaucoup comme personnalité, comme chercheur, effectivement, et qui sans doute nous met sur la voie d'autre chose, qui va nous aider à sortir un peu de cette confusion. Kleinberg, lui, faisait une seconde hypothèse qui, à mon avis, est plus féconde, d'ailleurs, en 2002, et il proposait de traiter non plus de graphes, mais de traiter de streams. Et il partait de memes, des mèmes, qu'on va retrouver en 2009 dans cette présentation-là, qui est un résultat du Meme Tracker, qui est bien connu maintenant, avec Leskovec, notamment. Et finalement, ce qui nous intéresse ici, c'est qu'on voit qu'on a des entités qui sont tracées, qui sont agrégées, mais que ce sont des entités élémentaires. On ne sait pas qui a publié ça. On voit ce qui circule, on voit comment elles s'agrègent, on voit comment elles font des fleuves et des cascades, des streams and cascades, et qu'elles se propagent en réalité sur Internet, uniquement sur Internet, non, parce qu'il y a bien entendu des liens avec d'autres choses, mais on n'en sait rien du reste, si vous voulez. Donc ce qui est intéressant, c'est que là, dans ce cas-là, ils l'utilisaient pour suivre la campagne Obama, mais ce ne sont plus des acteurs humains réellement qui sont au centre de leurs mesures, si vous voulez. Ce sont plutôt des entités, ici des citations et des chaînes de caractères, plus précisément, parce qu'il n'y a aucune sémantique dans l'affaire, des attributs, des features, comme on pourrait dire quand on évoque des sites, par exemple, d'avis sur des hôtels, etc. Bien, on a des features qui se propagent, qui sont notées d'une certaine façon, et on les voit vivre, on peut les suivre. Donc nous avons des technologies là de traçabilité, et la notion, bien entendu, va nous intéresser. Malgré tout, si vous voulez, ce qui est embêtant, c'est qu'on continue à avoir cette tendance à nier, d'une certaine façon, la frontière entre le monde digital et le monde ordinaire, et au point, certains emploient cette expression, de considérer l'un comme la copie carbone de l'autre. Et de ce point de vue, c'est quand même assez étonnant, parce qu'on ignore vraiment complètement les conditions de production, les conditions de propagation de ces entités. Et ces conditions ont une particularité. Les conditions de ces données que l'on traite actuellement, et notamment celles que l'on parle quand on parle souvent du big data, même s'il y en a bien d'autres, comme ça a été évoqué par Étienne tout à l'heure, effectivement, ce sont des données qui dépendent entièrement des plateformes. Des plateformes, on les résume souvent aux GAFA, à Google, Apple, Facebook et Amazon, mais on pourrait ajouter Twitter, bien entendu. Et surtout au fait qu'ils ont, ce sont leurs capteurs qui récupèrent des données et qui ont des actionneurs eux-mêmes, vous pouvez agir dessus d'une façon ou d'une autre, et qui sont installés par ces plateformes. Donc je vais revenir sur ce point-là. On trouve même chez quelqu'un comme Dana Boyd, par exemple, l'idée que un like, on pourrait l'interpréter comme un, elle dit ça dans un papier, comme un simple hochement de tête dans une conversation. Bon, disons, pour essayer de rester connecté encore entre ces données nativement digital, je vais revenir sur l'expression, et les expériences ordinaires que l'on fait. Or, si l'on se souvient de l'affaire du bijoutier de Nice, par exemple, entre le 11 septembre 2013 et puis le 7 novembre de la même année, on a atteint 1 635 000 likes. Et alors, à ce moment-là, tout le monde a commencé à se poser des questions, notamment les chercheurs, mais pas seulement, la presse, tout le monde. Et certains ont dit, mais tout cela est fabriqué, tout cela est acheté. Donc, on a montré qu'il y avait des gens qui cliquaient et étaient rémunérés pour cela. D'autres ont dit au contraire que non, c'est bien la preuve que la société est dans une tendance sécuritaire terrible, etc. Donc il y avait la démonstration que ça copiait exactement ce qui se passait dans la société. Et d'autres, plus savants et plus experts, ont commencé à dire « Attendez, c'est pas la même chose, les likes et les commentaires, et donc on peut mesurer un taux d'engagement. » Et du coup, on montre que, il y a sans doute une bulle des likes, mais en même temps, il y a des vrais humains quelque part, c'est ceux qui font les commentaires, etc. Je dirais que d'une certaine façon, tout le monde est toujours un peu à la recherche de ce vrai social, comme dans un miroir, d'une certaine façon. Or, je propose, moi, plutôt, d'admettre que nous avons affaire ici à des traces qui sont nativement digitales. Nativement digitales, c'est le terme qu'emploie Richard Rogers, qui a son centre à Amsterdam, effectivement, en Digital Methods. Et il est important de comprendre qu'il faut éviter, précisément, de les détacher de leurs conditions de production. Elles sont directement liées à ces plateformes qui les produisent, les plateformes, mais on pourrait l'étendre à autre chose, parce que bien entendu, quand on a les objets connectés, c'est d'autres types de données, mais qui sont dépendantes aussi de ces formats de production. Alors Dominique Cardon a proposé une typologie qui est intéressante de ces types de données, qui est plus centrée sur les web ou sur ces plateformes plus particulièrement, mais avec la vue, le lien, le like, la trace, etc. Et ce sont toutes des métriques intéressantes parce qu'elles sont nativement digitales. C'est-à-dire que vous enlevez Facebook, il n'y a pas de like, il n'y a pas d'équivalent. Bon, alors on peut dire que c'était un équivalent des haussements d'épaule, mais enfin, il faut vraiment tirer l'affaire et complexifier les choses et faire une métaphore un peu abusive. Donc, c'est ça qui est intéressant. Ces données-là, elles sont de fait avant tout autoréférentielles. Elles parlent du système de notation et d'évaluation du monde dans lequel nous sommes, du monde numérique, je veux dire, de la plateforme numérique dans laquelle nous sommes. Elles sont aussi complètement incertaines sur le statut des émetteurs. On sait qu'il y a des comptes, mais on n'en sait pas grand-chose de plus. Et elles n'ont pas non plus de totalité de référence. Il n'y a pas de population de référence, pas de tout auquel on pourrait se raccrocher. Et paradoxalement, il me semble que justement, c'est cela l'avantage du big data. C'est cela, finalement, l'avantage du big data, c'est d'être obligé, d'une certaine façon, quand on va travailler avec ces données-là, de les réduire à des traces, on pourrait dire en anglais d'ailleurs trace data, qui sont nativement digitales. Et je fais faire ce forçage, j'allais dire, pour dire, moi, ce qui m'intéresse dans le big data, ce sont les traces nativement digitales. Et ça, ça change beaucoup de choses, évidemment, même s'il y a bien d'autres formes de big data, comme on l'a évoqué. Et l'avantage, justement, du buzz, c'est que ça met l'accent et ça met la pression, y compris sur les sciences sociales, pour se dire, mais qu'est-ce qui est en train de se passer là? Et sommes-nous capables de gérer l'émergence de tout un continent de phénomènes qui n'avaient pas d'existence auparavant? Et on peut toujours essayer de dire que ça copie quelque chose. Non, c'est autre chose. Ça émerge dans des conditions tout à fait différentes. Et d'une certaine façon, c'est utile pour que les sciences sociales aussi se posent la question de leur supposé ancrage permanent dans l'humain, dans des évidences sociales, alors que d'une certaine façon, on est amené à dire là quasiment que ça se calcule et ça calcule. On ne sait plus où, quel est l'auteur, les intentions, etc. Tous ces phénomènes-là, d'une certaine façon, ont disparu. Ce qu'on voit très bien dans les phénomènes financiers, hein, ou avec le high frequency trading, où tous les algorithmes de calcul ont dépassé largement les supposées intentions, y compris une capacité à les maîtriser, comme on l'a vu dans la crise financière. Donc ce qui nous intéresse, et ce qui m'intéresse là, c'est effectivement de réfléchir à partir du fait que le big data nous obligerait à admettre l'existence d'un autre monde, d'un nouveau monde, dont la connexion avec les entités sociales que nous étions habitués à manipuler précédemment et qu'on supposait d'une certaine façon contrôler, eh bien cette connexion-là, elle n'est plus garantie. Les individus, la société, l'opinion, alors là, pour essayer de recoller ça, on peut toujours essayer, hein, on peut toujours essayer, mais en réalité, si on est un peu... lucide sur le type de qualité des données que l'on a, eh bien, c'est autre chose. Et ça, c'est un point important. Les données sociodémographiques, la population de référence, tout cela a disparu, alors que ça fait partie des traditions de l'ensemble des sciences sociales. Et du coup, on a finalement une situation où cela ouvre la porte à trois candidats contre les sciences sociales traditionnelles, contre précisément celles qui sont équipées avec toutes ces entités. Les premières, ce sont, on en a parlé dans la journée, les computer science qui vont détecter, elles, des patterns et qui vont tirer des conclusions sociologiques très, très rapidement, sans trop de problèmes, sans s'embarrasser de notre débat permanent sur les catégories et les concepts. On peut aller beaucoup plus efficace de ce point de vue-là. Donc, sur Twitter, par exemple, vous avez une masse de gens qui font des travaux sur des millions de tweets et qui sont capables de vous montrer, je ne sais pas quoi, mais ils montrent des choses. Donc, voilà, c'est un peu le problème. Et ils n'ont pas besoin de théorie. Et ça rappelle ce que disait Chris Anderson quand il disait en 2008 « The end of theory ». Il parlait au départ du génome, justement, aussi, et puis de l'ensemble des choses. Il dit « Bon, c'est un tout petit papier dans Wired, et c'était juste pour faire provocateur, comme d'habitude. Mais en attendant, je pense que la question se pose maintenant. C'est-à-dire, est-ce que vraiment tous ces acteurs qui sont capables de mobiliser ce type de technique de traitement de ces données de masse ont encore besoin de sciences sociales d'une façon ou d'une autre ? Bon, question existentielle, s'il en est. Le marketing fait d'une certaine façon la même chose et il produit avec l'ensemble des données qu'il mobilise et ses traces précisément, il produit du targeting qui n'est pas du tout du profiling, c'est-à-dire qu'on vante effectivement et c'est des choses que Franck a déjà évoquées aussi, c'est-à-dire qu'on vante souvent la capacité à traiter jusqu'à l'individu d'ensemble de ses propriétés, du consommateur, etc. En réalité, pour le moment, avec tous les mathématiciens qu'on met dedans, pourtant, on fait seulement du targeting ou qui vous permet de redéplacer des publicités en masse sur certains types de comptes ou d'adresses IP qui ont cliqué sur quelque chose auparavant. On n'en sait pas beaucoup plus sur les personnes et ce n'est pas nécessairement utile. On n'a pas de problème ici de réflexivité. Ce n'est pas le travail de catégorisation, de classification, plus généralement, des consommateurs qui est en jeu. C'est avant tout une réactivité et une capacité à tester des classifications opérationnelles pour rendre, précisément, pour mesurer le 0,1% qu'on gagne, qu'évoquait tout à l'heure Jean-Samuel. Donc là aussi, the end of theory, d'une certaine façon. Et puis, troisième candidat, effectivement, qui frappe à la porte pour se substituer, d'une certaine façon, au sens social, c'est ce qu'on a évoqué, par exemple, la physique sociale, que Étienne a mis en image tout à l'heure, de Pentland, notamment, qui modélise, à l'aide de systèmes multi-agents, par exemple, mais on avait auparavant, il y a très longtemps aussi, des choses comme chez Schelling sur les simulations plus avec son tipping point sur la ségrégation, Ou bien alors, on importe des modèles qui sont issus d'autres champs, en mécanique du fluide ou autre, etc. Et là aussi, the end of theory, the end of social theory, tout au moins, parce qu'on peut avoir effectivement autre chose de ce point de vue. J'insiste là-dessus pour vous créer le climat, j'allais dire, ou voir le stress de l'enjeu qu'il y a actuellement, qui consiste à dire on peut finalement, dans ce monde-là, se passer largement des apports que les sciences sociales considéraient comme absolument indispensables pour toute une société, pour générer de la réflexivité. Alors il y a à partir de là trois postures qui sont possibles, qui vont traiter différents aspects et différents univers de production du big data. Le big data peut traiter d'une part, classiquement pour les sciences sociales, de données structurées, et à la limite certains diront légitimement que ce n'est pas vraiment ça le big data, dans un domaine identifié, où on produit avec des capteurs fiables, qui vont être agrégés dans des bases de données relationnelles, mais toute la numérisation, j'allais dire, des agences de l'administration, de l'État, etc., produit des données comme ça, pardon, excusez-moi. Donc ce sont des choses, on trouve ça aussi dans la santé, dans la médecine, etc. Donc ça, ce ne sont pas des données nativement digitales, qui ne sont pas liées à l'existence même du système de ces plateformes, par exemple. Elles étaient auparavant produites avec des systèmes d'enregistrement papier d'un autre type. On augmente leur productivité, la calculabilité, etc., tout à fait. On augmente aussi les échelles, c'est vrai, mais on a toujours des références hors du monde digital. Et vous voyez tout à fait la différence que cela fait. On a des références sociodémographiques, des références historiques, topographiques, éventuellement, où on fait beaucoup de cartes, etc. Et il est vrai que les sciences sociales, du coup, peuvent continuer à faire le travail qu'elles faisaient avant, soit en se passant du big data, comme le disait Étienne Ollion, soit en augmentant, disons, en amplifiant, comme pour employer le terme que j'aime bien d'Elisabeth Angenstein à propos de l'empreinte imprimée. Donc ça amplifie ce travail-là, c'est vrai, mais c'est le travail habituel, c'est le business as usual, et on a des capacités de calcul supplémentaires, et puis voilà. À l'extrême inverse, nous avons une autre piste qui est celle que j'évoquais déjà un petit peu auparavant, c'est-à-dire qu'avec le big data, nous pouvons considérer qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui sont capables désormais de traiter des données moins structurées, voire pas structurées du tout, mais qui sont nativement digitales et qui sont produites par le réseau lui-même et ses plateformes dans des formats propriétaires. Et alors là, on aura, j'ai déjà évoqué un peu, le lien, le like, le clic, les étoiles, quand on a affaire, et des verbatims, quand on a encore affaire à des supposées actions humaines, etc. En réalité, il y a bien d'autres choses, il y a bien d'autres capteurs qui peuvent nous inonder de données que la sociologie, les sciences sociales en général ne traitent vraiment pas jusqu'ici, mais qui mériteraient désormais une attention de ce point de vue. Donc on a finalement, dans ce cas-là, ces traces, et j'insiste sur le mot à la place des données, elles sont massives, c'est le critère du volume, le premier V, elles sont hétérogènes, et c'est le critère de la variété, et elles sont dynamiques, c'est le critère de la vélocité. Je plaide auprès de mes collègues informaticiens pour qu'ils arrêtent de nous bassiner avec l'histoire de la véracité, parce que alors là, on est parti dans des questions totalement infinies de discussion, parce que pourquoi pas aussi les données justes, les données belles, les données tout ça, bon, il y a tout un tas de critères comme ça qu'on pourrait rajouter, qui sont à la base de toute la philosophie, mais on sait bien dans quelle impasse on peut s'engager de ça. Mais pourtant, ça marche, parce qu'y compris commercialement, certains essayent de vendre cette idée du vrai. Donc, contentons-nous des 3 V, c'est déjà pas mal. Et donc les machines peuvent effectivement calculer des corrélations, elles peuvent produire des classifications, elles peuvent apprendre elles-mêmes, elles peuvent corriger ces classifications très vite grâce à ces 3 V, précisément, c'est ce qu'on appelle le machine learning, qui est une façon de relooker aussi l'intelligence artificielle pour beaucoup. Et donc elles peuvent aussi produire des prédictions, et ça c'est important, c'est quelque chose qui change beaucoup de choses, qui vont orienter l'action. Mais on n'a pas besoin d'hypothèses explicatives. Je veux dire, il s'agit d'orienter l'action et de tester une quantité de modèles. Et les tests, justement, de robustesse deviennent très importants dans ces cas-là. Et ça pose des problèmes, ça continue à poser des problèmes. Mais en réalité, on s'en approche, puisque tout ça, ce sont toujours des approximations, bien entendu. Bien entendu, elles ne sont jamais brutes. On l'a discuté, on en a parlé suffisamment précédemment, parce qu'elles sont produites, effectivement, dans cet environnement donné et avec une finalité donnée. Mais ce qui m'intéresse, c'est de montrer qu'elles sont détachées, ou détachable tout au moins, de toute population de référence et de toute propriété sociodémographique qui nous permettrait de retomber sur quelque chose que l'on pense solide, nous, en tant que sciences sociales, si vous voulez. Il y a un problème secondaire qui est le fait qu'il n'y a pour le moment pas de réelle convention partagée. Moi qui ai beaucoup travaillé sur les questions de mesure d'audience, on voit bien comment tout le temps qu'il a fallu pour arriver à produire une convention pour obtenir des critères de calcul du prix des espaces publicitaires, puisque c'est ça au bout du compte auquel on arrive, pour les audiences. Donc ce travail-là, il a été très long. Mais une fois qu'il est obtenu, c'est ce que Thévenot appelle les investissements de forme, eh bien effectivement, quand c'est fait, c'est très avantageux, parce que plus personne ne se pose trop la question, même si tout le monde sait que bon, tout ça est un arrangement comme un autre. Mais au bout du compte, ça finit par marcher. C'est ça qui compte, c'est que ça marche. Et là, on n'en est pas encore là. Donc ça explique aussi cette prolifération. Tout le monde prétend avoir la mesure qui tue et qui va être celle qui va envahir le marché. C'est quelque chose qui est encore un univers très concurrentiel. Ce qui est intéressant, c'est de rappeler donc que ce sont des traces produites par les plateformes et pour les marques. Et pour les marques, et j'insiste là-dessus. Et pour les marques, elles sont suffisantes. Évidemment, quand je dis les marques, je dis aussi la finance, qui précisément est la forme de valorisation des marques actuellement, qui ça permet effectivement de repérer des tendances, de faire du targeting, d'anticiper un certain nombre d'évolutions, etc. Le poids des marques dans le monde qui est le nôtre doit être au cœur même de l'analyse du big data. Sinon, à mon avis, on ne comprend pas grand-chose. C'est le cas dans la partie financière. L'économie immatérielle qu'on évoque, en réalité, elle est massivement financière, liée aux marques, liée aux brevets, etc. Alors ça, c'est de l'économie immatérielle. Tout le reste, c'est un petit peu, j'allais dire, ce que les intellectuels essayent de traiter. Mais en réalité, je pense que le poids de ce secteur-là est beaucoup plus important que tout le reste qu'on évoque. L'important, c'est que ces marques, elles vont financer les études elles-mêmes et les méthodes de suivi. Elles vont mettre en place, effectivement, ces méthodes d'opinion mining et de sentiment analysis, dont, quand on les a étudiées en détail, quand on rentre à l'intérieur, effectivement, on voit bien qu'il y en a 80% qui sont vraiment des arnaques complètes, quoi. Vraiment des arnaques. Bon, LexisNexis, où on a évoqué ça ce matin, où effectivement, il y a des grands opérateurs qui finissent par produire des choses assez fiables, intéressantes, où il y a des limites de validité, etc., ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'offres qui sont présentes autrement. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps, elle finance de fait, et c'est ça qu'il faut bien avoir en tête, c'est que de fait, elle finance en réalité tout l'Internet, depuis 1995, du moment où l'Internet est passé hors du giron de la NSF, et qu'effectivement, il est géré par ce rémunération, il dépend de la rémunération publicitaire. Donc, si vous supprimez ce ressort-là, eh bien, le modèle de l'Internet s'écroule d'une façon ou d'une autre. Et Google et Facebook, bien entendu, en sont des très bons exemples. Donc ce big data nativement digital, il constitue de fait, c'est mon affirmation que je démontre ailleurs dans d'autres papiers, mais qui est effectivement un nouveau monde, d'une part, à part, mais c'est aussi un nouveau marché, et qui fournit en réalité tout clé en main, c'est-à-dire qui fournit les données, les capteurs, les méthodes, l'analytics, les stratégies, tout ça, hop, et c'est toujours les mêmes qui fournissent tout cela, d'une façon ou d'une autre. C'est donc, de mon point de vue, un modèle autoréférentiel, massivement autoréférentiel, quelqu'un a évoqué ce matin l'idée d'une bulle, justement, eh bien oui, ça fonctionne forcément à cela, c'est-à-dire ça mesure des images produites par ceux qui les mesurent eux-mêmes, etc. Et donc vous avez un effet circulaire qui, bien entendu, explique la difficulté à retrouver ses repères pour les sciences sociales en général. Donc ce sont des effets à base performative qui sont connus par les acteurs, mais en même temps, qui n'en font pas un drame. Je veux dire, c'est comme ça que ça marche, évidemment, puisqu'il s'agit de transformer les esprits d'une façon ou d'une autre. Actuellement, il a un cas particulier, c'est-à-dire que ce modèle-là vit provisoirement sur la prédation des données et des traces personnelles. C'était un sujet notamment toute la matinée ici. Mais je prétends, moi, que la fenêtre se referme. La fenêtre est en train de se refermer. On voit bien ça avec les mouvements divers qui plaident pour une régulation dans ce domaine-là. La demande de privacy, la demande de contrôle, elle ne peut que s'accentuer et du coup aller vers quelque chose qui ressemblera à un cryptage généralisé ou à ces PIMS qui étaient évoqués ce matin, etc. On peut dire, alors là, c'est terminé, c'est fini pour les sciences sociales qui essayaient d'arriver à accrocher ce monde-là. En réalité, je pense que c'est très bien. C'est très bien, précisément, parce que nous n'aurons plus accès à ces traces en oubliant qu'elles sont dépendantes des plateformes. Là, au moins, ça sera très clair. Et aussi, nous ne pourrons plus, du coup, prétendre ignorer les enjeux de privacy, les enjeux de lien avec les personnes, etc. Et tout le travail que l'on fait pour anonymiser tout ça et rendre... Et moi, je l'ai fait récemment dans une enquête internationale. Je veux dire, bon, c'est un travail énorme de hachage de toutes les données, etc. Donc, il faut le faire, c'est bien. Mais en même temps, du coup, on se retrouve d'une certaine façon avec des vrais dilemmes éthiques, assez souvent. Là, les problèmes, de mon point de vue, vont sans doute s'atténuer parce qu'on aura des règles beaucoup plus strictes. Et si la régulation spontanée ne se fait pas, j'allais dire, de toute façon, on aura des catastrophes tellement importantes qu'on sera bien obligé de réagir parce que de ce point de vue-là, on a vraiment joué avec le feu. Alors, ça, ce sont les deux mondes que j'évoquais. Le business as usual avec les sciences sociales qui font des données amplifiées, si vous voulez, mais qui travaillent sans s'occuper trop de ce qui est particulier du web. Les autres qui traitent de ce qui est des données nativement numériques, mais qui en font un objet de business pour leur propre réactivité, et donc qui ne s'occupent plus du coup de théorie. Et donc la question que je pose, c'est effectivement comment les sciences sociales peuvent malgré tout trouver une place dans cet univers en tenant compte et en se laissant affecter par la particularité de ces données, de cette masse de données qui est disponible désormais sur les réseaux en général. Et donc ma proposition, elle va consister précisément à refuser la fin annoncée de la théorie, et tout en admettant qu'il y a vraiment un nouveau monde, qu'il est apparu, qui ne duplique en rien le monde social étudié. Et je propose donc de traiter ces traces, comme une matière première qui est commune, de fait, avec le computer science, avec le marketing, avec la physique sociale, avec tous les autres, etc., et de les traiter comme des sciences sociales de troisième génération. Mais ça veut dire que c'est un programme, c'est-à-dire qu'il faut y aller. Et de fait, il va falloir traiter la matière première qui est la même que nos concurrents, d'une certaine façon, sur le marché des idées et de la réflexivité, j'allais dire. Et on voit ça, d'ailleurs, d'une certaine façon, dans le dépeuplement de certains départements de sciences sociales, alors que, de l'autre côté, les départements de communication, ça marche très bien partout dans le monde, hein, c'est vraiment... d'école de commerce, etc. Donc l'idée est de traiter ces traces non pas seulement comme les traces au sens informatique du terme, mais de trouver l'équivalent théorique qui nous intéresse, et je propose de travailler sur des flux de mèmes. Des flux de mèmes, j'ai essayé d'autres choses depuis un an sur les conversations, sur l'influence, sur les issues, sur tout ça. Bon, en fin de compte, c'est celui-là qui me semble marcher le mieux. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que ces flux de mèmes, ils sont directement influencés, bien entendu, aussi par l'approche de Kleinberg et de ses streams, en sachant bien qu'on peut aussi intégrer dans ces flux-là des topologies, tout ce qu'on peut récupérer, ce qu'on fait nous habituellement au Media Lab, justement, sur les topologies du web, et qui sont ces données issues de nos crawls, de nos robots qui vont chercher tous les liens entre les sites, eh bien ça, on peut les intégrer. Mais ça nous permet de les traiter justement de façon dynamique, alors que jusqu'ici, on a tendance à en produire des images assez statiques et qui sont finalement facilement récupérables dans un modèle sociologique extrêmement plat, de mon point de vue. Évidemment, le cadre théorique, il rappellera celui de Tarde, que je fréquente depuis pas mal d'années quand même, ces lois de limitation, en rappelant que ce n'est pas les lois de limitation au sens trivial du terme, mais c'est aussi les lois de l'opposition et les lois de l'invention en même temps, donc c'est quand même un peu plus compliqué, d'une certaine façon. Évidemment, il emprunte aussi à la mémétique que Dawkins avait fondée en 1978, et puis qui étudie aussi des réplicateurs, qui travaille sur des réplicateurs, et qui ne rend pas compte d'un processus de copie d'identité numérique seulement, d'identité élémentaire, pardon, mais qui traite aussi de dérives, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement le même qui se reproduit tel quel, on peut parler de dérives mémétiques, on peut aussi parler d'inertie mémétique, qui fait qu'à un certain moment, certains ensembles se stabilisent. Voilà une deuxième source d'inspiration. Et puis enfin, une troisième, évidemment, ça ne nous étonnera pas, c'est la théorie de l'acteur réseau, et qui nous a appris quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire qui nous a appris à prendre en compte le pouvoir d'agir d'entités non humaines. Et ce pouvoir, cette agency-là, voilà quelque chose qui, du coup, peut être mobilisé dans ce cas-là, parce que, précisément, nous allons travailler, là, désormais, avec des entités circulantes. Et, par exemple, pour parler de Flickr, qu'évoquait Jean-Samuel Muscard, eh bien, nous allons travailler aussi sur les photos, c'est-à-dire sur la façon dont les photos circulent, et non pas forcément sur les comptes. C'est-à-dire, on peut effectivement se dire qu'il y a des humains derrière, d'accord, mais voyons comment les photos et leurs propres attributs finissent par agréger un certain nombre de propriétés, dont certaines peuvent être des comptes aussi éventuellement. Mais ça, à ce moment-là, vous voyez que le point de vue change totalement. On est dans des effets de réseau et de propagation, mais qui sont centrés sur des petites différences. Et évidemment, on perd, bien entendu, toutes les idées des grandes causes, parce que ça, ce n'est pas du tout le cadre théorique dans lequel on est. Et donc, il voyait bien qu'il y a un vrai débat théorique pour dire qu'on a autre chose à faire, ce qui n'invalide pas ce qui est fait par ailleurs. Mais dans ces données-là, dans ce monde-là, il y a un cadre théorique qui fonctionne, et c'est pour ça que je l'ai mis dans ce tableau-là, comme étant des auteurs fondateurs, en mettant Calon, Latour et Lowe dans cette affaire-là. Ils ne sont pas fondés, cette affaire-là, bien entendu. En réalité, il se trouve qu'il y a une convergence de l'époque avec les principes qu'ils ont développés. Et il se trouve précisément qu'ils sont issus de la scientométrie, comme par hasard aussi, bien entendu. Et évidemment, il y a une conjoncture technique, l'Internet, le web et les big data qui sont favorables à tout cela. Ce qui est important, c'est de voir que tout cela s'appuie quand même sur ce pouvoir des marques, qui sont les acteurs majeurs de référence et qui vont financer en réalité l'ensemble du système de production de ces éléments-là, de ces traces, et qu'on dépend du coup des acteurs opérationnels que sont les plateformes. Je l'ai déjà évoqué, je le rappelle, c'est un point important. Alors évidemment, une fois que j'ai produit ça en disant j'ai une troisième génération, ça laisse entendre qu'il y en avait d'autres avant. Et est-ce que ça veut dire que la troisième génération fait table rase et puis que tout le reste c'est égal à zéro, que nous avons une nouvelle science totale des flux de même qui expliquerait tout, etc. Mais pas du tout, pas du tout justement. Ce qui est intéressant, c'est de rester bien spécifique sur le type de données et le contexte de leur production pour essayer de produire les cadres théoriques qui permettent d'en rendre compte de façon utile et qui ne sont pas ceux qui ont servi à produire d'autres entités précédemment. L'intérêt, c'est que le big data, ici, il est nativement digital, et il se limite effectivement à cela, il est très réduit, et j'appelle ça effectivement une troisième génération, parce qu'auparavant, je vais faire appel à une seconde génération, déjà, celle qui portait sur l'opinion. L'opération qui a été réalisée, et c'est très bien parce que Franck a parlé de ça aussi, justement, avec Gallup, l'opération qui a été réalisée autour, à partir de 1936, mais c'était, il y a des prémices un petit peu avant aussi, quand Gallup prédit la victoire de Roosevelt, effectivement, il réalise quelque chose qui, techniquement, est une opération statistique qui était déjà un peu dans les tuyaux, c'est-à-dire qu'on discutait déjà de ce que c'est que l'échantillonnage, hein, toute cette question-là. C'est des choses qui avaient été évoquées par Cayer en 1894 ou par Bowley avec l'erreur probable en 1906. Tout cela avait préparé le terrain, mais l'idée du sampling, l'idée de l'échantillonnage, elle était aussi testée, d'ailleurs, comme le montre Emmanuel Didier, dans les différentes agences qui essayaient de mesurer les phénomènes dans le domaine de l'agriculture ou du chômage. Mais en réalité, ce qui va faire un saut à tout le monde, c'est l'utilisation de cela par Gallup dans des situations de mesure des prédictions des votes, précisément, contre les méthodes de vote de paille, comme on disait, effectivement, des lecteurs du Literary Digest, où il y avait plus de 2 millions de lecteurs à qui on demandait leurs intentions de vote, eh bien lui, il a pu faire la même chose avec 50 000 personnes uniquement. Et donc cette puissance-là, elle est nouvelle, c'est celle qui va convaincre que l'opinion, ça existe, si vous voulez. Et en même temps, vous voyez bien que c'est un dispositif qui se construit dans un certain contexte, c'est-à-dire qu'il a en même temps créé le principe même de l'opinion, et finalement maintenant, malgré ce que dit Bourdieu, même si en réalité il ne dit pas exactement ça, mais l'opinion n'existe pas. Ben si, elle finit par exister. On dit oui, ça existe, mais c'était l'opinion des sondages, n'existait pas, qu'il disait. Donc l'opinion existe, finalement, on y croit parce qu'on la mesure, puis ça finit par faire parler, et du coup ça finit par être une entité qui vit sa vie, d'une certaine façon, à condition de savoir dans quel contexte elle est produite. Elle est produite dans un contexte de médias, comme l'a très bien dit Franck aussi, puisqu'il avait travaillé Gallup sur le lectorat et puis sur la radio. C'est le moment où émerge la radio, enfin, depuis 1924, mais c'est des choses qui sont plus massivement répandues à ce moment-là. Et il va donc partir d'une étude de l'audience qui est de fait transposée ensuite en opinion, mais parce que ça vit dans le monde des médias. Et donc les prescripteurs, à ce moment-là, ceux qui vont être les acteurs de référence et les financeurs, ce sont bien les masses médias. Bien entendu, ça a un rapport avec ce qui était dit sur le marketing, puisque précisément la publicité, l'ensemble des investissements qui sont faits dans ce domaine-là, dépendent aussi de cette influence des médias qu'il s'agit de mesurer. Mais il y a des opérateurs pour cela. Il faut créer des instituts de sondage. Et ils vont les créer. Il ne sera pas tout seul, bien entendu. Il y en avait d'autres. Et c'est pour cela qu'il y a finalement l'équivalent des plateformes de maintenant. Eh bien, ce sont les instituts de sondage qui s'y sont créés à l'époque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mesure de l'opinion sans les instituts de sondage, sans le sampling et sans les médias qui financent tout cela. J'espère que je brosse évidemment à grands traits l'opération, mais c'est pour vous montrer que ce moment-là est fondateur d'une autre entité qui va gouverner toute une partie des sciences sociales, notamment les sciences politiques, mais pas seulement, et notamment aussi le marketing via d'autres traductions qui sont aussi importantes dans ce domaine-là. Les corrélations dans ce cas-là sont descriptives et puis elles deviendront prédictives parce qu'on va y ajouter précisément tous les calculs de probabilité. Mais l'intérêt, c'est bien de se rappeler que cette opinion, elle fonctionne avec des critères de représentativité. La question a été évoquée, mais on s'accroche à ça. Et si on dit représentativité, c'est quelque chose qui veut dire qu'il y a derrière, effectivement, une totalité à laquelle on peut faire référence, qui est donc qui, elle, serait exhaustive, quelque part, d'une certaine façon. Donc, il y a un tout de référence, que nous n'avons plus, je le rappelle, dans le cas du web. Donc finalement, on a un objet scientifique qui se constitue, l'opinion publique, à partir de techniques qui sont issues d'un autre monde, qui sont issues de l'audience, voire du marketing, etc., et qui, en réalité, comme nous avons, nous, à traiter des données qui viennent de ces plateformes pour d'autres finalités, eh bien, nous avons ce même problème. Et Lazar Svel, notamment, aidera aussi à dégager tout cela dans sa partie scientifique, notamment. Donc ce côté de la représentativité, il disparaît de fait avec le, comment, avec le big data, d'une façon ou d'une autre. Et là, en l'occurrence, ici, il était toujours présent, il y avait toujours une référence. Dans le cas du big data, désormais, il ne reste plus ni exhaustivité ni représentativité, il ne reste que la variété, précisément. Et la variété, c'est l'équivalent, appauvri d'une certaine façon, de la question de la représentativité, c'est-à-dire qu'il faut s'arranger, est-ce qu'il y ait suffisamment de, avec ces critères-là, on peut essayer de trouver une forme de crédibilité à nos énoncés. Et puis la première génération, eh bien, c'était tout simplement celle qui a produit la société. Alors vous me direz, c'est un peu culotté quand même, la société, ça a toujours existé, c'est une évidence, et puis les sciences sociales sont fondées là-dessus, etc. Eh bien non, y compris parce que les sociologues ne sont pas d'accord là-dessus, sauf que Durkheim a réussi un coup de force absolument génial, c'est de la faire vraiment exister. Et la faire exister comme une entité, j'allais dire, de second degré, comme le dit Latour, effectivement, qui, elle, peut expliquer et causer des comportements individuels, comme il l'a fait dans le suicide en 1897. Et de ce fait-là, ce n'est pas une évidence, c'est-à-dire qu'il produit avec tout un ensemble de cas, un cadre théorique dans son ensemble, qui a une puissance extraordinaire, qui fait que maintenant on peut dire aussi, oui, la société existe. Alors on dirait, personne n'a jamais imaginé de dire qu'elle n'existait pas. Oui, mais elle existe parce que précisément elle est formée dans les cadres que Durkheim a produits, de façon efficace, solide et durable, avec les méthodes là aussi qui comptent. Bien sûr, il y avait des prédécesseurs, il y avait Quetelet et son homme moyen, par exemple, mais la puissance de la société elle-même, elle repose sur un autre dispositif de captation et une forme de mesure qui, elle, est traitée de l'exhaustivité. C'était les recensements. Et précisément, ça dépend, à ce moment-là, on voit bien que ça dépend de qui, ça dépend des États, ça dépend de leur puissance de recueil de données et ces prescripteurs, ces registres, comme le dit Desrosières, qui là-dessus a écrit énormément de choses absolument géniales, eh bien, ces prescripteurs sont les États, les opérationnels sont les bureaux du recensement, le Census Bureau, ou les instituts nationaux de statistiques par la suite, et ces données-là, elles sont produites par l'État et pour l'État, État et agences et entités associées, si vous voulez. Mais l'intérêt, c'est qu'elles sont réutilisées par Durkheim, mais elles sont réutilisées aussi au second degré d'une certaine façon, mais sans être réellement réinterprétées, parce qu'on pourrait discuter sans problème toutes les catégories qu'il utilise dans le suicide de ce point de vue-là. Leur prétention, effectivement, c'est dans ce cas-là d'être explicatives. Elles sont explicatives et non plus seulement à partir de variables déterminantes, etc. Et elles ne sont plus seulement descriptives ni basées sur des corrélations. Et c'est ça la force de frappe du modèle que Durkheim a construit de ce point de vue-là. Et du coup, toutes les disciplines des sciences sociales, et particulièrement la sociologie, c'est quand même fondé sur cette évidence de la société. Ça a été très bien construit et donc ça marche et donc elle existe. La question qui nous est posée, c'est que précisément, nous ne pouvons pas transposer ces mondes de production d'une entité qu'est la société ou celui de la production de l'opinion, nous ne pouvons pas les transposer tels quels au monde du big data, au sens des données numériques plus largement, mais surtout du données nativement numériques. On ne peut pas le faire. On peut le faire, on peut continuer à le faire, mais on oublie certaines propriétés de ce monde qui est construit avec ses propres règles, avec ses propres médiateurs et avec ses propres dispositifs. Donc, et pour conclure, effectivement, je dirais donc que ces trois générations peuvent coexister parce qu'elles ne traitent pas de la même chose, c'est tout. Elles ne traitent pas de la même chose. Les relevés sont faits à partir de sources différentes, les intermédiaires pour les produire sont différents. On a des entités, la société, l'opinion, les flux de même qui ne sont pas du même type. Les comptes rendus sont différents, avec des explications de la description ou de la prédiction. Les sources, les prescripteurs sont différents, etc. L'enjeu, donc, pour les sciences sociales consiste désormais, et c'est pour ça que ça me paraît un moment important pour nous, malgré l'effet de buzz et de sans doute que le big data comporte, il y a malgré tout une mutation dans les recueils de données qui est assez importante. Soit nous laissons le terrain des traces nativement digitales aux concurrents, ceux que j'ai évoqués précédemment, soit nous projetons au contraire les modèles des sciences sociales que nous connaissions avant avec la société et l'opinion, et nous les projetons sur ces données-là, et pourquoi pas, ça peut marcher aussi, avec ses limites, mais ça peut marcher. Soit, effectivement, nous essayons de produire une théorie spécifique de ce nouvel agencement dont la matière première est les traces et en faisant, d'une certaine façon, ce que Richard Rogers appelle du repurposing, c'est-à-dire qu'on les détourne, on les réutilise à d'autres fins que celles des plateformes que l'on connaît pour des fins de sciences sociales. Et donc, on peut travailler avec des flux de mêmes qui ne sont ni l'entité, ni la société, ni l'individu, ni la société, ni l'opinion, des entités circulantes qui sont
agissantes aussi parce qu'elles ont une capacité nous avons désormais des capacités de traçabilité. Et ça, c'est nouveau. Ce n'est ni l'exhaustivité, ni la représentativité. Et de ce point de vue, effectivement, nous ne sommes plus du coup dans des situations de surplomb. Nous ne sommes plus non plus dans des prétentions à la totalité. Nous suivons dans des univers particuliers, sans doute plutôt autour des issues, autour de certains problèmes. Nous voyons comment émergent précisément et comment vivent ces entités-là. Et nous évitons surtout d'en tirer des leçons trop rapides sur le reste de la société. C'est un monde à part et il a ses propres lois et nous devons effectivement l'assumer comme tel. Merci.